Sagesse du monde, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans ce studio avec David Goulois, et nous allons poursuivre notre tour du monde, je dirais, des grandes traditions. Et voilà, David, aujourd'hui, tu vas nous parler plus particulièrement de la gnose.
Oui, bonsoir à tous. Donc on continue, comme l'a dit Olivier, dans le cadre de l'émission Sagesse du monde, le deuxième lundi de chaque mois, de 18h à 19h. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez un petit peu découvrir les différentes traditions, philosophies, religions anciennes. Et là, on voulait vous parler aujourd'hui, en effet, de la gnose. Donc, c'est-à-dire de la gnose chrétienne des premiers siècles, hein, des premiers, surtout deuxième siècle.
Alors déjà, peut-être pourrais-tu nous dire ce que signifie le mot gnose?
Alors, la gnose, c'est un savoir, une sagesse qui est censé nous libérer. Et on va voir comment ce thème est très présent dans l'enseignement justement des gnostiques d'Alexandrie, hein. Donc, c'est-à-dire
Donc ça veut dire savoir, sagesse, hein. Ça vient du grec peut-être?
ça vient même d'une origine sanscrite, le jnana, qui se prononce même maintenant jnana, comme la gnose, hein. C'est la connaissance en termes de connaissance intérieure, hein, sagesse, connaissance du soi, de la réalité et des choses ultimes et
Donc c'est
réelles.
quelque chose, là tu vas nous en parler dans le cadre chrétien, mais c'est quelque chose qui existe dans d'autres traditions aussi,
On peut dire, oui, c'est un peu l'enseignement aussi ésotérique. La gnose, c'est un peu l'ésotérisme chrétien. Il y a en gros, moi je distingue deux grands courants. Il y a le courant juif de Palestine, hein, les Esséniens. Il y a même à l'intérieur plusieurs courants, Esséniens, Nazaréens. Et eux, pour eux, on a retrouvé les fameux manuscrits de la Mer Morte après la guerre. Et l'autre courant, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est donc le courant gnostique gréco-égyptien, parce que c'est l'époque où l'Égypte et surtout la capitale Alexandrie étaient sous domination grecque. Et donc il y a eu un grand brassage culturel et plusieurs siècles vraiment d'une haute valeur. Et donc un lien entre tout le savoir antique de l'Égypte et également tout le savoir grec qui se sont mêlés, qui se sont rencontrés. Et donc ces chrétiens-là ont une approche différente des autres chrétiens du Proche-Orient.
D'accord, donc c'est les chrétiens qui étaient imprégnés de culture grecque d'un côté, imprégnés de culture égyptienne de l'autre, et qui
Voilà.
ont construit une sorte de nouveauté avec l'enseignement du Christ, à partir de l'enseignement du
Voilà, ils
Christ.
l'ont réinterprété beaucoup dans la lignée de Paul, parce que Paul et donc Paul, on sait, c'est l'apôtre qui est venu après Jésus. Hein, il n'a pas connu Jésus, hein, et lui était très instruit en sagesse grecque, hein, notamment. Et donc ils sont dans cette lignée-là beaucoup. D'ailleurs, ils sont souvent des disciples de Paul. Et il y a aussi peu d'empreintes de la tradition juive, ce qui est pas le cas dans les manuscrits de la Mer Morte où on reste très proche. Je donne un exemple d'un gnostique qui s'appelle Marcion. Lui, il recommandait carrément d'oublier la. Il ne reconnaissait pas la valeur de l'Ancien Testament, ni du Dieu Jéhovah. On va voir qui lui est associé à un Dieu inférieur. Donc on voit vraiment qu'il y a une rupture. À tel point qu'on s'est demandé s'ils étaient vraiment judéo-chrétiens, ou même vraiment chrétiens, tellement ils ont des approches complètement dissidentes du christianisme romain, hein, qui s'est installé peu à peu et qui a en fait écrasé le gnosticisme.
Oui, cette tradition enfin, chrétienne, peut-être, comme tu dis, en Égypte, juste après Jésus, donc ça veut dire au 1er, 2e siècle, est donc antérieure à tout l'établissement des dogmes chrétiens,
Voilà.
catholiques, romains.
C'est antérieur au concile de Nicée, qui est au début du IVe siècle, et qui là vraiment où il y a les dogmes de l'Église catholique romaine qui vont vraiment s'implanter. Mais avant, il y a une forme d'Église un petit peu conventionnelle qui veut trouver son avantage à s'allier au pouvoir romain pour pouvoir continuer. Et c'est au fur et à mesure qu'il va y avoir des formes de friction, et les gnostiques sont très vite taxés d'hérétiques. Ils vont être après même chassés, et comme les néoplatoniciens aussi, qui ont beaucoup influencé aussi les premiers chrétiens. Donc selon moi, on a vraiment une approche une vision de ce qu'a pu être peut-être l'enseignement ésotérique ou un enseignement très proche de celui de Jésus. Et on va voir qu'il est vraiment différent et qu'il prend même parfois le contre-pied de l'enseignement catholique actuel.
Donc l'enseignement ésotérique, donc un enseignement destiné non pas à la masse des gens à l'époque, mais simplement à des initiés ou...
Oui, c'était des gens très très cultivés. Pour replacer aussi le contexte, on est à Alexandrie, il y avait cette très grande bibliothèque qui a contenu jusqu'à 700 000 rouleaux, et il y avait des textes qui étaient traduits du chinois, de la tradition indienne, de perse, bien sûr grec, égyptienne. C'était peut-être le plus grand centre culturel de l'Antiquité. Elle a été brûlée volontairement, mais il faut savoir que donc à cette époque, les différentes écoles d'Alexandrie, qu'elles soient gnostiques ou néoplatoniciennes, c'est des écoles carrefour un peu, qui sont très très instruites, et les gens y étaient très très instruits là-bas. Donc pour moi, cette école a vraiment toute sa valeur, rien que par le contexte. Alors on peut parler un petit peu des gnostiques.
Marcion, donc tu voulais parler de Marcion.
Voilà, on a parlé de Marcion. Alors avant lui, il y a Simon le Mage, c'est le premier. On en parle dans la Bible. Il n'a pas bonne presse d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'il est un peu vu comme un magicien doué de prodiges et pas très chrétien en fait. Hein.
Donc on en parle dans la Bible, ça veut dire qu'il était au temps de Jésus alors.
Voilà, il est opposé à Pierre souvent, on l'oppose à Pierre. Alors à mon avis c'est largement exagéré, peut-être même déformé, parce qu'il y a des gnostiques qui se réclament autant de Simon que de Pierre. Donc voilà. Les textes chrétiens et autres, les textes sacrés, malheureusement, ont été aussi beaucoup retravaillés. Il faut pas les prendre au pied de la lettre. Mais en tout cas, Simon le Mage, donc c'est vraiment l'époque, la première époque. Et donc, on a parlé de Marcion, qui était même exclu de l'Église, hein, dont il était membre. Donc, il faut voir un petit peu le caractère un peu particulier de ces auteurs. Et il y a Basilide, qui a créé vraiment une grande école. Alors lui, il célébrait le baptême, il pensait, on en parlera, il croyait à l'adombrement de Jésus, donc ça c'est un thème qui revient aussi souvent, c'est-à-dire le contact du Christos à travers Jésus. Hein,
donc verra. C'est quelqu'un qui faisait la différence entre le Christ et Jésus alors,
voilà.
À l'époque. Ouais.
Et puis peut-être le plus connu, c'est Valentin, qui est l'auteur de la Pistis Sophia, de tout le mythe de Sophia dont on va parler donc dans cette émission, et d'un évangile de la vérité. Donc, c'est des systèmes assez complexes. Hein. Il y a des systèmes métaphysiques, comme ça, de représentation du monde. Donc là, je vais en parler.
Donc pour redire, ce sont donc des auteurs, donc des gens qui écrivaient, mais pas nécessairement des gens qui avaient des pratiques religieuses spécifiques.
Si,
ils avaient aussi ça.
Oui, bien sûr. Il y avait une mystique, il y avait... donc toute une connaissance déjà donc des textes, il y avait des états, des pratiques méditatives, contemplatives, il y avait l'usage de sortes de mantras, de mots de pouvoir.
Donc, et c'était des enseignants en même temps alors.
Alors ils ont créé des écoles, hein. Tous ceux que je cite, ils ont créé des écoles et ils avaient donc des élèves, donc à Alexandrie puis aussi ailleurs, hein, au Proche-Orient, ils ont été vraiment certains très très connus. Hein. Et c'était des gens qui jouissaient vraiment d'une grande renommée. Et qui avaient vraiment un savoir très étendu, en tout cas dans leur domaine. C'était d'ailleurs, quand on les lit, on voit la profondeur de leur système. Alors on peut commencer par placer un peu ce que les gnostiques appellent le plérôme.
Alors plérôme,
c'est la plénitude. C'est une sorte de monde archétypal.
Alors, je vais l'épeler peut-être parce que dans notre à notre époque play. Alors c'est P-L-E-R-O-M-E, plérôme. Plérôme. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la plénitude. C'est le monde non manifesté et il correspond en fait à l'absolu, le Père pour eux. Ils appelaient ça le Père. Pour eux, le Père, il n'avait pas de nom. Hein. Donc c'est pas du tout le Père Jéhovah de la Bible. C'est donc un absolu, et à partir de lui, il va y avoir une sorte de trinité.
Alors, c'est leur conception de Dieu, alors si je...
Voilà, ouais, c'est la divinité, mais non manifestée, et on va voir que c'est très très détaillé à l'intérieur. Donc ça, c'est le plérum, c'est le monde non manifesté. On va voir qu'il y a deux autres mondes après dans le monde de la manifestation, en quelque sorte. Donc dans le plérum, il y a donc le Père. On l'associe des fois à Bitos, l'insondable, au silence. En tout cas, il n'est pas compté, il compte pour rien, il compte pour zéro parce qu'il est, non-né, il n'a pas de nom. C'est vraiment pour eux la définition du divin. Par contre, à partir de lui, il va y avoir des éons, des émanations. Ça, c'est un terme qui revient souvent chez les gnostiques.
Et qui sont aussi hors création, alors.
Et voilà, celles-ci sont hors création. On va voir qu'il y en a 28 en tout. Le premier couple, alors ils ont un mot, ça s'appelle Syzygie. On voit souvent ça. Et on retrouve des mots même grecs souvent connus. Ianous et Aletheia, la vérité. Nous, c'est le mental. Et Aletheia. Et à partir de nous, c'est là qu'on va avoir un couple important, c'est Christos, justement, et Pneuma, le souffle. C'est l'équivalent du premier logos, hein, du Père dans la Sainte Trinité chrétienne. Hein, Père, Fils, Saint-Esprit. L'autre Père, c'est un Père qui ne fait pas partie de la Sainte Trinité, en quelque sorte. Hein. Mais si on voulait calquer ça sur la Sainte Trinité chrétienne, ça serait le premier logos, le premier aspect, le Père. Il y a un deuxième couple qui est le logos proprement dit, donc le mot, le verbe, et zoé, la vie. À partir de lui, il va y avoir 10 éons. 10 émanations, toujours dans ce plérum. Et le troisième logos, celui qui va créer, engendrer l'univers proprement dit, il y a anthropos, donc l'homme primordial, et ecclésia, qui veut dire l'église, l'assemblée. Et là, il y a 12 éons qui y participent. Donc on a trois couples. 2 fois 3, 6. Et pour le deuxième éon et pour le deuxième couple et le troisième, il y a 10 éons qui s'ajoutent, plus 12. 10 et 12, 22. 22 et 6, 28. Il y en a en tout 28. Voilà, donc c'est assez complexe. Ils ont même des noms.
Et ça vient d'où ça? Comment ils ont eu l'idée de...
Alors, c'est très égyptien, justement. On voit, si on compte celui qui est au-dessus, le père et puis Bitos, on peut en compter 8. Hein, c'est-à-dire 3 couples et un couple complètement... Absolu.
Ouais, si encore plus antérieur.
Voilà, beaucoup plus antérieur. Et ça, on a ça dans tous les vieux systèmes égyptiens. C'est vraiment fondé sur... c'est là qu'on voit justement la grande influence de l'Égypte chez eux. Et on va retrouver ce 8 après dans le monde intermédiaire. Ils appellent ça des ogdoades. Donc là, on peut dire, si on compte les deux supérieurs, qu'il y a une ogdoade complètement archétypale. Et quand on rajoute les éons supplémentaires, en tout cas, l'ensemble fait 28 ou 30, si on compte les deux supérieurs. Mais c'est assez complexe. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau sur le troisième niveau, là où il y a les 12 émanations, la dernière, c'est Sophia. Et c'est à partir d'elle, justement, elle est à la fin, c'est elle qui va chuter. Et là, on va rentrer dans le mythe de Sophia. Celle qui va engendrer une fille et qui, à partir de qui, le mythe de la création, donc de la chute dans la matière et de l'évolution, la rédemption, va s'accomplir. Donc voilà, c'est assez complexe.
On comprend. Si on les appelle des chrétiens, oui, comme tu disais, on peut se demander si c'était des chrétiens à la base, parce que c'est pas la Bible là, que tu nous racontes.
Alors... Dans les évangiles, c'est les récits surtout des actes et des paroles de sagesse de Jésus, hein, déjà. Et il faut savoir qu'il y avait aussi plusieurs évangiles qui circulaient, il y en avait même beaucoup. C'est pour ça qu'on en retrouve maintenant, mais à l'époque, ils existaient, il n'y avait pas... Les 4 ont été choisis au concile de Nicée, si je me souviens bien.
Oui, c'est mais ça, mais je voulais dire... C'est, ils ne se basent pas sur l'Ancien Testament pour avoir cette vision de Dieu.
Non, il est possible que Paul y soit aussi pour beaucoup. Hein. Paul, c'est celui qui a enseigné aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Hein. Et lui, était aussi très instruit. Il venait de Tarse, hein, Saint-Paul de Tarse. Et il y avait aussi une sorte peut-être de conflit entre lui et puis les anciens apôtres qui avaient aussi connu le Christ. Mais il était vraiment renommé pour sa culture et son savoir. Donc oui, c'est peut-être retraduit en termes déjà grecs, parce que c'est expression grecque, sur un fond un peu égyptien, mais on retrouve en tout cas l'idée d'un absolu, avec une trinité, même si elle est couplée en termes de polarité, hein, parce qu'il y a un plus et un moins dans chaque aspect des personnages de la trinité, mais on a un père, C'est le premier couple, le fils et puis la mère, hein, l'équivalent. Hein, d'accord? Alors justement, la mère, cette fameuse Sophia, elle représente le principe de la substance qui n'est pas encore manifestée, mais qui va se manifester. Donc on voit qu'ils avaient aussi une très grande connaissance des principes de l'Orient et des connaissances de l'Orient. On a cette même idée d'une substance en germe et qui après se manifeste sous forme de lumière et en termes d'énergie, de revêtement et à partir de qui les mondes vont être créés. Et ils appellent ça, eux, des émanations, mais c'est des notions de plan. Il y a même plusieurs systèmes avec des symboles numériques, mais aussi géométriques. Hein, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on a aussi le système platonicien. Quand on a le chiffre 10, bah, ça représente, eux, ils le représentaient par un pentacle, les 10 émanations du deuxième logos. Et les 12 émanations du troisième, c'est un dodécaèdre. Hein, c'est un symbole à 12. À 12 côtés.
Donc, non, avant ça, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans le mythe de Sophie, on va faire pause avant. Mais donc avant la pause, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que cette... Parce qu'il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que tu dis que d'un côté il y a le non créé, et puis en même temps le non créé il se décline. Alors c'est comme s'il s'engendrait lui-même des générations de non créé, c'est paradoxal.
Oui, c'est des émanations, mais il ne faut pas le voir en termes de matière, c'est plutôt des principes.
Qu'on peut dire que ce sont des énergies qui se...
Énergie, ça me gêne un peu parce que énergie, c'est quelque chose qui agit dans le monde manifesté. Pour moi, c'est plutôt des principes en germe. Et on va voir que dans le monde de la manifestation, ils vont agir. C'est-à-dire que les autres émanations vont dériver de ces principes archétypaux. On a dit le Christ et Pneuma, ils viennent du premier couple. C'est l'aspect père, c'est l'aspect vie, c'est l'aspect pouvoir. Nous, en termes de rayon, dans le langage ésotérique, on dirait que c'est le premier aspect qui va engendrer tout ce qui est premier rayon.
Premier aspect de Dieu, qu'on retrouve dans l'hindouisme.
Voilà, Shiva, on voulait faire. Donc, on voit qu'il y a une très bonne connaissance de tous les systèmes. Et quand on connaît les autres systèmes, on peut voir que chez les gnostiques chrétiens, il n'y a rien d'inventé, en fait. C'est une continuité de la tradition. C'est pour ça qu'ils ont été vus peut-être comme des païens, par les chrétiens plus conventionnels. Hein, les catholiques romains, parce qu'ils avaient en fait accès à cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, à tout ce savoir. Et les catholiques romains ont essayé au début d'asseoir le christianisme sur une révélation, celle de Jésus, qui n'avait pas cours avant.
Oui.
Donc en fait, on voit que là, il y a un conflit, alors que eux se reconnaissaient de... appartenant à une lignée, en quelque sorte. Hein.
Voilà, qui était plus égyptienne, alors que les premiers chrétiens qui ont dominé arrivaient plus du judaïsme.
Voilà.
Ouais. D'accord, on fait une première pause, David ?
Volontiers.
À tout à l'heure. Thank you. Eh bien, nous nous retrouvons pour Sagesse du Monde, la poursuite de cette émission consacrée à la gnose chrétienne. David, tu nous as décrit un petit peu le contexte de cette gnose qui arrive donc au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui fait l'objet d'écrits, de textes, et écrits par différents enseignants.
Oui. Et d'écoles aussi. Hein.
Et d'écoles, oui. Et qui sont eux-mêmes issus donc de traditions égyptiennes, beaucoup.
Voilà, beaucoup influencé. C'est quand même l'enseignement de Jésus, transmis par Paul et avec donc une notion quand même de savoir ésotérique. Et puis aussi de Pierre, hein, quand même, hein, donc l'apôtre qui a quand même connu aussi Jésus. Et il y a, et c'est interprété à travers tout un savoir donc de l'époque, on l'a dit, est lié à la bibliothèque d'Alexandrie, à cette ville qui était un carrefour spirituel.
Donc ils avaient une vision de Dieu, je pourrais dire, une vision de ce qui est avant la création que tu as essayé de nous décrire et que tu appelles donc le plérôme. Hein.
Voilà, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est le système de Valentin. Alors on va voir en termes de symboles comment on trouve beaucoup de symboles pythagoriciens et platoniciens. Hein, Platon s'est beaucoup inspiré de Pythagore et on disait que Pythagore, selon la tradition, était allé en Inde et qu'il avait même un nom en Inde, hein, et qu'il avait ramené son système une très vieille philosophie, le Samkhya. Donc il y a des symboles géométriques, il y a des choses comme cela.
Tu peux nous redire les dates approximatives de Pythagore? C'est avant Jésus-Christ ou c'est après? Je ne suis pas très...
Non, c'est avant, c'est à l'époque de Bouddha justement, hein. Il aurait peut-être même été contemporain de Bouddha, il aurait même pu rencontrer Bouddha, c'est possible.
D'accord, donc c'est carrément 600 ans auparavant, voilà. D'accord.
Donc, si on reprend le plérôme et qu'on le résume en langage géométrique, on a un point que Pythagore appelait la monade, justement. Hein. On a un point, donc le père, et en première personne, on va appeler ça comme ça, hein, première personne ou premier logos, hein, c'est le couple, hein. Si on prend le point et le premier couple, ça fait un triangle. Donc, le point, la ligne, le triangle, c'est complètement pythagoricien. Et après, si on lit le premier couple avec le deuxième, on a un carré, c'est-à-dire deux couples ensemble. Et donc, après, quand on rajoute aussi les émanations, on avait dit, après le carré, on a le 5, c'est le fameux pentacle, hein, l'étoile à 5 branches, et puis le dodécaèdre, 6. Donc on a vraiment toutes les figures géométriques, rien que, et puis le cercle qui contient le plérôme. Hein. On a toutes les figures géométriques qui sont contenues dedans. Et il y avait aussi tout un savoir lié à l'alphabet grec. L'alphabet grec est relié à des chiffres, donc même le nom des différents éons avait une valeur numérique aussi. Voilà, ils avaient un dieu qui s'appelait Abraxas, qui contenait 365 éons. C'est-à-dire non seulement ceux du plérôme, mais tous ceux après, toutes les émanations, les rayons, si l'on veut, les plans et avec leurs sous-plans, tout l'ensemble faisait 365, et bien sûr, ça a une valeur solaire. Et le nom d'Abraxas, quand on calcule, on retrouve les chiffres 365. Donc voilà, ça c'est un ésotérisme typiquement grec. Hein. Donc on va parler, Olivier, si tu veux bien, du mythe de Sophia.
D'accord. Donc là, quand on arrive à Sophia, donc tu nous as dit l'étage le plus inférieur de cette non créée, quoi.
Voilà. Et donc elle va chuter. Alors Sophia, bien sûr, c'est ce qui a donné Sophie, hein. C'est la sagesse, oui. Le prénom Sophie. Et donc Sophia, elle va faire l'erreur entre guillemets de regarder vers le bas. Elle chute en fait. C'est vraiment le symbole de cette
Alors le bas, c'est quoi? C'est la matière, en fait?
C'est ce qui va devenir le monde manifesté. Elle regarde et elle va engendrer sa fille qui est Sophia Akamoth. Voilà, c'est la fille de Sophia qui va représenter le principe psychique. Et elle-même, donc cette fille, elle va chuter encore à sa manière et elle va engendrer un fils qui s'appelle Ildabaoth, qui est littéralement le fils de l'œuf ou le fils de la boue. Alors si on résume, dans le monde manifesté, il y a le Christos qui est émané du premier couple, Pneuma, qui lui émane du plérôme pour sauver la création. Il y a tout de suite ce thème du Christos, du principe christique en tant que sauveur. On a le Christos.
Donc c'est un principe qui s'incarne en quelque
voilà.
sorte.
Voilà, donc tu vois l'importance du plérum, c'est le premier logos, il émane le Christos, avec pneuma, qui veut dire...
Le souffle.
Voilà, le souffle. Christos pneuma, et qui va essayer de sauver Sophia. Sophia Akamoth, donc, hein, la fille de Sophia, qui est le principe psychique, l'âme en quelque sorte. Hein. Ici, pour eux, pour les gnostiques, c'est intéressant que le Christos était relié à tout ce qui est étincelle, au souffle, à l'esprit. Donc il y a le souffle, l'esprit, hein, Christos, pneuma, qui va être chargé de sauver, d'aider Sophia Akamoth, qui est le principe psychique intermédiaire. Parce qu'elle, elle est entre... elle est émanée donc de Sophia, qui appartenait avant au plérum, et elle est aussi tirée vers le bas parce qu'elle engendre le fils qui est Ildabaoth, qui lui représente la forme, le monde de la personnalité.
Ah d'accord, donc elle est entre le non-créé et le créé, quelque
en
part.
En quelque sorte.
Entre les deux.
Voilà. Et en fait, elle appartient à un monde intermédiaire qui est composé de plusieurs éons. Donc il y a le Christos pneuma, hein, qui sont émanés. Il y a Sophia qui est avec Sophia Akamoth, hein, qui a chuté avec sa fille. On y met Jésus dedans. Jésus en tant qu'initié, celui qui va être beaucoup lié à Sophia Akamoth. C'est lui qui va lui enseigner la gnose, c'est-à-dire Sophia, c'est notre âme. Hein. Donc Jésus représente, il est appelé parfois le grand pontife. C'est celui qui va enseigner la gnose pour que Sophia puisse s'extirper du monde en dessous.
Donc Jésus serait un instructeur
spirituel
et qui serait donc qui appartiendrait quelque part à un plan intermédiaire entre
voilà.
les deux plans, quoi.
Alors pour eux, c'est le purgatoire. Le purgatoire, c'est ça, c'est ce monde intermédiaire. Et je rajoute trois éons pour arriver à 8. Il y a Horos, c'est intéressant, il s'appelle la limite, hein, parce que c'est lui qui crée la limite entre le plérum et donc ce monde intermédiaire. Il y a Stauros, la croix. Il y a un autre qui s'appelle Participation, qui crée littéralement le lien. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un monde en 8, et on voit tout de suite les principaux aspects de ce monde intermédiaire. Donc il y a le monde psychique avec Sophia, qui va être aidée de Jésus. Il y a le monde qu'on appelait pneumatique, le monde de l'esprit, avec Christos, pneuma. Et donc, en dessous du monde de l'esprit, de l'âme, il y a le troisième, si on compte le plérum, qui est le monde vraiment, pour eux, qui était le monde de la matière, de l'enfer, entre guillemets. Hein. C'est le monde d'Ildabaoth, donc le fils de Sophia Akamoth.
Donc l'enfer, c'est sur Terre pour eux aussi, alors.
Voilà. Alors pour eux, c'est même à un niveau stellaire, c'était le monde planétaire. C'est-à-dire que là, on rentre dans le monde ils appelaient ça des archontes. Il y avait 7 archontes, et Ildabaoth, c'était le chef des archontes. C'est-à-dire que c'est des dieux planétaires qui vont, à partir de leurs énergies, créer les différents mondes. Et pour eux, donc Ildabaoth était associé à la planète Saturne et aux dieux juifs de l'Ancien Testament, Jéhovah. Donc pour eux, Jéhovah, Ildabaoth, le fils de la matière, en quelque sorte, lui, il engendre la création, le monde matériel proprement dit, le monde de la personnalité pour eux. Sophia est intermédiaire, Sophia Akamoth, hein, c'est notre âme qui est, à travers son fils, elle a donné aussi quelque chose de sa lumière, de sa conscience. Donc l'âme est enfermée dans ce monde, hein. Et c'est Christos, donc au-dessus, qui avec son souffle, hein, qui est censé sauver notre âme. Et Jésus est une sorte d'envoyé du Christos. Hein. Il est à aider Sophia, c'est-à-dire que l'enseignement donc de Jésus pour chaque être humain, il est censé libérer notre âme du monde de la matière, voilà, pour rejoindre la nature du Christos. Voilà, si j'ai un petit peu résumé le...
Donc le but pour un être humain, c'est de retourner vers ce plérum, en fait.
Et tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gnostiques donc partageaient les humains en trois types. Il y avait le type qu'ils appelaient illique, relié à la matière, dont le chef était Ildabaoth. Il y avait le type psychique, donc psyché, on voit aussi, ça c'est des noms grecs, hein. c'est l'âme, hein, ce qui a donné psychologie, par exemple. Hein. Donc, c'était le monde de Sophia Akamoth, aidé par Jésus. Et puis, le monde pneumatique, le monde de l'esprit, de la monade, en quelque sorte, hein, du souffle, c'est-à-dire avec Christos et puis pneuma.
Donc, chaque être humain relevait plus ou moins d'un de ces...
Chaque être humain, voilà, avait en quelque sorte plus ou moins manifesté un
de ces aspects.
Voilà. Donc les grands initiés, ceux qui étaient libérés, en quelque sorte, c'était, ils avaient réalisé le Christos en eux. D'autres étaient dans l'état intermédiaire. Ils étaient comme Sophia Akamoth, donc leur âme tiraillée entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et puis la masse des gens qui étaient trompés, en quelque sorte. Il y a cette notion d'ignorance, d'oubli, qui revient constamment chez les gnostiques. Hein, l'idée que l'âme est tombée, donc Sophia Akamoth, à travers son fils, Ildabaoth, a en quelque sorte volé cette énergie psychique. Hein, il l'a enfermée dans la matière. Alors il y a même après d'autres mondes qui vont jusqu'aux petits esprits de la matière, hein, jusqu'aux élémentaux. Hein, on voit qu'ils avaient une connaissance du monde occulte assez poussé. Hein. Il y a un monde astral qui est un monde anti-pneumatique, justement, c'est-à-dire c'est un souffle qui est en quelque sorte renversé, qui représenterait le monde astral, le monde émotionnel, les illusions, et même un monde matériel qui était complètement infernal, là, hein, où il n'y avait aucune énergie psychique dedans, hein, c'était que de la matière à l'état brut.
Encore un niveau inférieur,
voilà,
alors.
Un niveau inférieur.
Que là où sont physique. Les humains, en fait.
Le plan complètement matériel, hein, la matière, proprement dit. Donc on voit qu'ils avaient une assez bonne compréhension des différents mondes et des trois aspects en l'homme. Hein, l'esprit, l'âme et le corps, en quelque sorte. Hein. Alors, il y a aussi toute l'histoire du paradis, de l'Éden, hein, ce fameux passage de la Bible. Eux en ont une version très différente. Hein. Ils disent que le premier homme et la première femme, que Ildabaoth, en fait, les a construits en matière. Donc on comprend pourquoi, parce que lui est associé au principe de la matière. Et il l'a copié sur le troisième logo, celui qui s'appelait Anthropos, l'homme primordial. Il a comme s'il avait fait l'homme à l'image de ce troisième logos, de ce dieu-là. Mais c'est un être de matière, comme on a la dent de poussière dans la Genèse. Hein. Et il y a des sortes d'anges messagers qui vont faire descendre, qui se cachent en archonte, qui se déguisent pour installer dedans le souffle du Christos, hein, et de pneuma, en quelque sorte. Hein. Donc on voit l'humanité est un mélange de ces deux aspects-là.
Et donc chaque être humain est un mélange de matière et d'esprit.
Voilà,
alors.
C'est ça.
Et c'est un mélange, oui, c'est ça. Il n'est pas l'un ou l'autre.
C'est un mélange et entre, il y a en fait Sophia, parce que Sophia a été en quelque sorte emprisonnée ou une partie de sa ceinture psychique est enfermée dans la matière, hein, ce qui donne notre âme individuelle en quelque sorte. Hein. Donc on est un être de matière, un être psychique et un souffle. C'est ça l'idée. Et Adam et Ève, selon eux, ont bien fait de manger le fameux fruit défendu. Pour eux, ce fruit, c'est le fruit de la gnose.
La connaissance.
Voilà. Quand ils mangent la pomme, ils sont en fait l'arbre de vie, on sait, devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour eux, ils commencent à goûter au fruit de la sagesse, donc de la gnose. Et on sait qu'il est associé au serpent. Pour eux, le serpent n'est pas du tout diabolisé, comme dans l'Ancien Testament. Pour eux, en fait, le serpent, c'est le Christos. Ils associaient le Christos, donc le Christ, au serpent qu'ils appelaient Ophis. Et il y avait même donc un courant gnostique qui s'appelait les Ophites, qui pensaient qu'ils associaient le Christos au serpent, ou à un dragon même parfois. Il l'associait même à la constellation du dragon. Donc on voit, il y avait aussi toute une connaissance astrologique.
Donc il y avait un plan derrière, je veux dire, c'était volontaire que l'homme mange ce fruit,
tout
en fait.
Tout à fait, voilà. C'est qu'en fait, l'homme étant cet être déjà charnel, il est en quelque sorte même pour eux enfermé dans l'Éden. Donc il va en sortir, mais l'intérêt c'est qu'il a cette étincelle et qu'il a cette gnose. Hein, c'est-à-dire que chaque homme a mangé C'est-à-dire qu'il a, il a en fait, en quelque sorte, cette conscience individuelle.
Et bien c'est ce qui lui permet de sortir, justement, de son état, non ?
Bien sûr, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir remonter. Donc repasser par le... sortir du monde infernal, passer par le purgatoire et retourner au plérum.
D'accord, donc je comprends. Donc en fait, on a bien fait de manger cette pomme, ce qui représente donc la connaissance, c'est ça ?
C'est ça.
Et ce qui va nous permettre de sortir de notre état, d'accord ?
L'arbre et le serpent, dans justement les anciennes traditions, c'est un symbole très très sacré. L'arbre, c'est une croix. Et puis le serpent, ça représente la force kundalinique, l'énergie sacrée qui monte ou qui descend le long de cet arbre. Mais ça, c'est un symbole très ancien. Donc on voit qu'ils sont en porte-à-faux avec le judaïsme, tel qu'il était en tout cas, ou alors le judéo-christianisme.
Alors est-ce que pour eux, ce travail de remonter dure plusieurs vies, ou est-ce que c'est censé se faire en une vie ?
Bonne question. Est-ce qu'il y a il y a une notion cyclique chez eux, à savoir que ceux qui sont dans le monde illique, donc de la matière, ils oublient.
On a oublié ce qu'il y avait avant.
Voilà.
Oui.
On a oublié. Ceux qui sont dans le monde intermédiaire, psychique, ils peuvent recevoir l'enseignement de Jésus, du grand pontife, comme ils l'appellent. Donc, ils peuvent recevoir la gnose. Donc, ils ont la capacité de rejoindre le Christos. Symboliquement, on pourrait dire de devenir eux-mêmes un serpent ou un dragon de sagesse. Hein. Donc, il y a cette idée qu'il va falloir sortir du monde de la matière, et on sait que c'est le monde planétaire aussi. Donc il y avait une étude de tout ce qui était astrologique. L'astrologie était un monde important pour eux parce qu'il fallait comprendre ce monde de la matière, et les planètes représentaient des forces qui emprisonnaient, qui nous fixaient à notre destin. Et il y a même des mythes où il y a cette notion donc d'insomnie ou alors d'oubli, et on replonge. Donc oui, il y a une forme d'allégorie au niveau de la réincarnation. Je ne sais pas si elle est notée proprement dit textuellement. Parce que c'était aussi quelque chose de sacré qui ne se disait pas forcément dans les traditions anciennes. Ça faisait partie des mystères sacrés, tout ce qui était lié à la Renaissance, à cette compréhension du cycle.
Donc c'était enseigné qu'aux initiés, en fait.
Voilà, probablement. Et il y a donc cette idée aussi qui, en reprenant les paroles de Jésus, veiller et prier, qu'il faut constamment rester vigilant et ne pas se faire happer par ce monde. Donc il y avait des techniques de méditation et de prière, c'était quand même des mystiques qui poussaient assez loin l'ascèse. Et il y avait aussi des mots de pouvoir, fondés sur leur alphabet sacré aussi, avec peut-être aussi des formes de talismans à caractère géométrique qui représentaient des principes supérieurs. Et il y avait une étude de l'astrologie. Donc par exemple, ils étudiaient des conjonctions planétaires, différents aspects planétaires qui pouvaient permettre à certains moments de la journée ou de l'année de sortir par des portes. Hein? Ça, c'est typiquement égyptien aussi. Hein? Et aussi au Moyen-Orient, il y avait l'idée qu'il y avait sept enfers, sept mondes dans les enfers reliés aux planètes, et que quand on voulait en sortir, on repassait par ces portes liées aux planètes. Donc ça, c'est aussi présent chez les gnostiques.
Alors, on va faire une deuxième pause, David, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons pour cette troisième partie d'émission sur la gnose chrétienne. David, peut-être un très rapide résumé de ce que nous avons dit jusqu'à présent, avant de poursuivre.
Oui, donc on a parlé des gnostiques, de leur façon de se représenter déjà le monde archétypal qu'ils appelaient le plérum, Il y a un dieu absolu, un père, et de lui émanent trois couples qui représentent les trois personnes de la Trinité. Et à partir de ce plérum, il y a un monde intermédiaire qui est créé en quelque sorte par la chute de Sophia, qui appartenait au plérum, et qui, par sa fille, représente la substance primordiale, ce qui va jaillir, ce qui va créer l'univers. Donc il y a des envoyés qui sont chargés d'aider Sophia à Camote, c'est Jésus. Et il y a Christos Pneuma qui sont les principes vraiment supérieurs.
Donc ça, c'est le monde intermédiaire, le monde psychique, tu disais. Le monde de la psyché.
Psychique et aussi pneumatique, parce qu'il y a aussi Christos et puis Pneuma. C'est juste au-dessus du monde de la matière qui est créé par le fils que va engendrer Sophia Akamoth en regardant trop dans cette matière. Justement, elle engendre Ildabaoth, qui est le fils de l'œuf, le fils de la boue, qui lui est le chef des esprits planétaires. Donc on est encore dans une vision ici très abstraite ou cosmologique, mais on peut aussi la rapprocher au niveau de l'homme, à savoir que tout ce qui est lié à la personnalité, donc même le mental, hein, l'émotionnel, l'énergétique, le physique, appartient au monde d'Ildabaoth, au monde illique, comme les gnostiques l'appelaient.
Le monde manifesté, on peut dire.
Voilà.
Le monde créé.
Le monde créé, la personnalité, ce qu'on appelait le corps dans un sens très, très général.
D'accord, donc pour les gnostiques, donc ces premiers chrétiens des tout premiers siècles dans la région d'Alexandrie, par là en Égypte, eh bien ils avaient cette vision des choses avec trois grands niveaux, le plérum, donc le non créé, une sorte de représentation de Dieu en fait, un niveau intermédiaire,
l'ogdoade en 8,
et puis ensuite
l'heptade en 7.
Voilà, et l'être humain, alors là-dedans, il se situe dans le monde incarné, et en même temps, il a un lien avec le monde intermédiaire.
Alors, l'être humain, il a un lien avec ses différents éons, et il est une sorte de reproduction inférieure. Il est créé à l'image de tout cela. Donc, vu que nous, on dérive d'Adam et Ève, comme eux, on a un corps que Ildabaoth a créé, parce qu'il a essayé de façonner lui-même les humains. Il y a toujours cette idée d'un démiurge dans les traditions qui essaye tout seul de créer l'homme, mais en fait qui crée que son apparence extérieure. C'est ce que fait Ildabaoth. Donc Saturne. Hein.
Donc un corps de matière. Là,
un corps de matière.
Alors qu'est-ce qu'il en est des émotions alors ?
Alors si on se place dans un point de vue ésotérique, il y a la matière du corps, mais on peut dire que les émotions, même le mental, nos pensées peuvent appartenir à la matière dans un sens général. Hein. C'est vraiment la personnalité, il faudrait plus dire ça. Le monde de la forme, ce qui est apparent.
Ce qui veut dire qu'il y aurait plusieurs plans de matière, alors, parce que c'est pas la
oui,
même...
Oui, il y a plusieurs plans, et on l'a vu d'ailleurs chez eux, ils avaient plusieurs niveaux de compréhension à partir de Ildabaoth. Hein. Il y avait le niveau des enfers, il y avait le niveau de cette sorte de lumière astrale qui représente notre corps émotionnel, et puis au-dessus, il y a le mental inférieur. Mais en tout cas, pour un gnostique, il y avait une sorte, c'était l'époque chrétienne aussi, et on va retrouver ça chez les cathares, il y a une forme de déni justement du monde de la matière. Hein, il n'y a pas un investissement de la matière. Si je fais allusion aux cathares, c'était...
La matière n'est pas le but, quoi.
Non, pas du tout, elle est même un piège. Jusqu'à la matière mentale, c'est-à-dire nos pensées, pour eux, même nos émotions, c'est pas quelque chose qui est important, ça fait partie du monde créé, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et si on parle des cathares, qu'on appelait avant les Bogomiles, qui venaient un peu de l'Europe de l'Est, peut-être de Bulgarie, en tout cas qui sont peut-être passés par l'Italie, mais arrivés par le sud de la France, hein, dans le Tarn, dans la région de l'Aude et autres. Et il y a eu donc, c'est les fameux cathares qui étaient à Montségur et dans tous ces châteaux. Ils avaient des...
Donc ça, c'était autour de l'an 1000 à peu près.
Voilà, l'an 1000, hein. Donc l'Inquisition, elle s'est d'abord dirigée vers ces hérétiques-là, et ils avaient donc des croyances très très proches de ces gnostiques et aussi des esséniens. Ils avaient ce refus de la matière, à ne pas s'investir dedans, et en plus, à l'an 1000, on croyait que c'était la fin du monde, donc il fallait devenir un cathare, c'est-à-dire un parfait. Et on a aussi ces termes de parfait chez les gnostiques, hein. C'est-à-dire que par la gnose... Jésus, l'initiateur, en quelque sorte, peut transmettre à notre Sophia Akamoth, à notre âme, la gnose de savoir pour nous élever et réintégrer notre Christos, notre monade. qui elle est vraiment parfaite. Hein. Il faut voir qu'elle est, elle a émané du Père, donc elle est juste descendue pour sauver, mais elle participe pas à ce monde-là. Hein.
Alors comment est-ce qu'il faut se transformer alors pour devenir parfait? Comment est-ce qu'on fait?
C'est une notion d'ascension. Hein. On est dans une ère très idéaliste. On est au début d'une ère où on va développer tout ce qui a à voir avec le dévouement, l'idéalisme abstrait, l'idée de on est dans un monde dualiste hein, aussi. Hein. Il y a le monde de la matière et puis il faut rejoindre le plérum. Entre, il y a ce monde intermédiaire qui est créé en fait pour créer ce pont justement. Hein. Mais c'est un peu dualiste tout cela. Et on peut dire que le christianisme, même ésotérique, contient ça. On a ça chez les cathares. On voulait pas se marier pour faire des enfants, par exemple. Hein. C'était bon, à l'an 1000, on pensait que c'était la fin du monde. Mais il y avait aussi une notion de fin du monde, quand même, de besoin de se libérer et de sortir de ce monde. Pour eux, par exemple, Jésus, il y avait le Jésus homme de chair, le fils de Marie. Lui était mort physiquement, c'était son corps sur la croix. Mais le vrai Jésus, pour lui, c'était l'initié, hein, celui qui initiait chacune de nos âmes. Lui, son but, c'est, pour un gnostique, c'est de réunir l'âme à l'esprit dans la chambre nuptiale. Il y a aussi toute cette tradition qui est passée dans le christianisme du mariage céleste, hein, de l'âme et de l'esprit. Même dans les contes, on a ça avec la reine. La reine, c'est l'âme et le roi. Hein. La reine et le roi qui doivent se réunir. Ou alors le chevalier avec son amante. C'est tout ce langage romantique remonte à cette période où on a créé ces grands symboles de mariage céleste. Donc le gnostique, il devait créer ce mariage. Libérer Sophia des griffes du dragon, en quelque sorte, ou donc de la matière. Et faire en sorte qu'il y ait ce mariage. Hein. C'est l'anneau. Hein. C'est
le mariage. Alors, je reviens à ma question. Comment est-ce qu'on s'y prend? Par des pratiques religieuses ou par une attitude dans la vie? Est-ce que c'est comme le bouddhisme qui dit, voilà, pratiquer telle et telle attitude ou...
Alors, techniquement, on a beaucoup de choses sur leur mythe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un usage de mots de pouvoir, comme je te disais avant. C'est des formules... Donc des sortes de mantras, je pense qu'il y avait beaucoup de pratiques de jeûne, de prière, de méditation.
Est-ce qu'il y avait aussi des pratiques en rapport avec la vie concrète, comme Jésus disait, il faut partager par exemple, ou des choses comme ça?
Ça, sincèrement, je l'ignore. Il n'y avait pas un investissement vers le monde de la matière, vers quelque chose de social.
Donc c'était plus une réflexion, une recherche intérieure.
C'était de la mystique pure. Mmh. C'était de la mystique, il fallait pas... ce monde, c'était celui de...
On n'attachait pas d'importance au monde de la matière manifestée.
Pas beaucoup, donc, ouais. Non, pas beaucoup. Parce qu'en tout cas, le but, c'était de... On était dans un monde où on était dans un monde de l'oubli. Hein. Hein, on a parlé de
oubli
cette importance.
Oubli de soi-même, oubli de...
Oubli, c'est en fait, si les auditeurs connaissent le Vedanta en Inde... C'est cette même idée, c'est que le monde il est irréel, il est écrit par Maya. Maya c'est Sophia, c'est une espèce de symbole d'eau céleste comme ça, de principe qui crée l'apparence, l'illusion des choses réelles. Mais ce monde en fait quelque sorte il n'existe pas et on est tous l'atman, c'est-à-dire le Christos. On est une monade, un soi et seul le soi importe, seul le soi compte et il n'y a pas... à la rigueur on peut vivre... dans ce monde, mais on ne doit pas se faire happer dans ce monde. Et il n'y a pas, un investissement social comme il peut y avoir dans certains autres courants. À ma connaissance, c'était surtout une mystique méditative, contemplative pour...
C'est pour ça qu'elle était dirigée vers des initiés, en quelque sorte, pas par le...
Probablement. Ouais. Probablement, c'est ceux qui étaient peut-être prêts à la fin de leur cycle d'existence, prêts à réintégrer le plérum, hein.
Alors David, je voulais revenir aussi, cette émission va bientôt s'achever, sur une question qui m'intéresse moi personnellement, c'est quelle différence faisait-il entre le Christ et Jésus, ces gens-là?
Alors donc, le terme Christ, c'est le terme donc français, ça vient de Christos, hein, du terme grec, ça veut dire celui qui est oint. Donc il est oint au Père. Hein.
Béni, ça veut dire ou...
C'est vraiment oint proprement dit. Christos, à la base, c'était dans des rituels initiatiques grecs où celui qui était initié on le l'enduisait d'huile. Il était oint.
D'accord.
Hein, donc le Christ s'est lié aussi à cette graisse, à ce principe qui unit. Hein. Donc chez eux, le Christos, on se rappelle, il émane de la du premier couple. Hein. Le premier couple où il y avait donc ce principe primordial, le nous, et aletia, la vérité, qui émane directement du Père absolu, hein, donc du principe ultime. Donc le Christos, il représente vraiment chez eux ce sorte de souffle de vie, on avait dit. Hein. Et donc il faisait la différence entre cet aspect-là, donc le Christos, qui s'associe aussi, on l'a vu, à un serpent ou un dragon céleste. Et il y avait Jésus qui était l'initié, une sorte de messager intermédiaire. Et l'homme de chair, Jésus, hein, proprement dit, mais l'initié, c'est la conscience, on pourrait dire, de Jésus, son âme, hein, en quelque sorte. Et parce que l'homme de chair, Jésus, c'est comme tout le monde, c'est le fils de la matière. D'accord, c'est le fils de Marie, mais c'est le fils d'Ildabaoth. Hein, il a comme nous un corps charnel qui naît, qui croit, qui meurt.
Oui, il ne croyait pas spécialement à la virginité de Marie ou...
Je sais pas. Elle avait en tout cas un caractère sûrement symbolique. Pour eux, c'était Marie représente. C'était une forme manifestée de la Sophia, hein, de la Sophia Akamot et de la Sophia de tout ce qui est principe féminin. Le principe féminin, il a un rôle très important chez eux. Hein. C'est une sorte de principe intermédiaire. C'est ça qui va nous sauver en quelque sorte aussi. Hein. Donc il y a cette forme d'erreur entre guillemets peut-être programmée. Cette chute, mais il y a aussi cette capacité grâce à la psyché, donc à la conscience, de sortir du monde de la matière.
Alors, pour eux, c'était féminin. Donc, pour en revenir au Christ et à Jésus, donc Jésus était en même temps le Christ, ou c'est un autre aspect de lui-même? Alors, c'est la eux, même c'est, entité ou c'est deux entités
c'est
différentes?
Deux entités différentes, et il y a cette notion d'adombrement, c'est-à-dire que Jésus a été le véhicule, a été adombré par Christos. Ça, c'est très net, et on a ça aussi chez les Esséniens, dans les manuscrits de la Mer Morte, cette différence. Et on a ça aussi chez les Cathares.
D'accord, donc les Esséniens, c'était plutôt en Palestine, au Moyen-Orient, voilà. Et les
Cathares, c'est ceux qui
les Cathares,
c'est mille ans après, pratiquement, qui ont un peu fait ressurgir dans le sud de la France, en tout cas, ces croyances anciennes, hein, hérétiques, justement. Hein. Et on a l'évêque Irénée de Lyon, qui était opposé aux gnostiques, et c'est grâce à lui... grâce à ses critiques, qu'on a pu en savoir un petit peu plus. Et lui critiquait pour lui cette infamie, cette hérésie de séparer Jésus du Christ. Hein, c'était pourtant, pour eux, il y avait vraiment... Jésus représentait le principe intermédiaire, en quelque sorte, et le Christos, le principe surplombant, hein, le principe premier. Donc oui, il y avait une différence. Peut-être elle a été transmise, justement, par les apôtres qui étaient proches, surtout ceux qui étaient proches de Jésus, qui avait probablement cette connaissance entre Christos et Jésus. Hein.
Mais il pouvait peut-être percevoir cet adombrement dont tu parles.
Oui, on a des, plusieurs passages, hein, dans la Bible où on sent que Jésus est investi de quelque chose. Il y a des notions de frémissement, il y a des notions aussi de pouvoir qui émanent, et on sait que ça a été discuté pendant plusieurs conciles, hein, pendant plusieurs siècles. Cette différence, ce Jésus, homme de chair et initié en même temps, et puis ce Christ qui est le...
Et la résurrection, alors, dans l'histoire, qu'est-ce que pensaient les gnostiques? C'était le Christ qui était ressuscité ou bien Jésus?
J'ai pas lu de choses à ce niveau-là chez les gnostiques qui expliquent proprement dit cette fameuse résurrection du corps. Ce que je sais, c'est que pour eux, même si Jésus était mort, le corps mort, le Jésus, donc grand pontife, initié, sauveur, lui était en quelque sorte immortel, et qu'il allait rejoindre dans la chambre nuptiale Sophia Akamot, il forme un couple avec, en quelque sorte. Hein. Donc, quelles sont dans le détail leurs croyances? On n'a pas énormément de documents non plus pour... pour attester, à mon avis, ils avaient une très bonne connaissance de cette chose-là. Pour eux, si on suit leur logique, il est possible même que le souffle du Christos ait pu ressusciter, avec l'aide de Jésus ou pas, mais ait pu ressusciter le corps mort pendant la période après les trois jours, jusqu'à sa disparition complète, enfin son ascension du moins. C'est pas, j'ai pas vu de choses écrites proprement dit là-dessus, mais en tout cas dans l'enseignement ésotérique, on parle vraiment de du corps de Jésus, Jésus mort, qui, enfin Jésus l'initié qui a quitté son corps, et le Christ qui reprend ce corps de lui-même et qu'il transforme en pur corps de lumière, et ça crée ce cette réplique sur le suaire d'ailleurs. Hein.
Sueur de Turin, d'accord. Voilà. David, il va falloir qu'on s'arrête maintenant. Hein, cette émission vraiment arrive à son terme. Peut-être veux-tu nous dire quelques mots de la prochaine émission?
Oui, alors la prochaine émission, on va vous parler de l'avatar à travers les traditions, donc qui s'appelle le Christ Maitreya, qui a différents noms. Et on vous parlera d'un auteur qui s'appelle Benjamin Crème et qui donne une conférence justement le samedi 29 mars à 15h à la porte de Charenton. Donc on vous parlera de tout ça. Si vous voulez tout de suite des informations sur cette conférence, je peux vous donner un numéro de téléphone. C'est le 01 42 50 26 60. 01 42 50 26 60 pour en savoir plus sur cette conférence. Et on parlera de ce thème justement de l'avatar dont parle beaucoup Benjamin Crème, donc le conférencier hein, qui vient en France. Ça sera le mois prochain en mars.
Voilà, deuxième lundi de mars. Et puis si vous voulez nous contacter, nous transmettre vos idées, vos réflexions, etc., bienvenue de le faire via Internet, via notre adresse email, sagesse au pluriel, @orange.fr. Merci David.
Merci Olivier, merci à tous.
Et bonne soirée.